Mensagem de Nível, com Artur Silva.
Bonjour à tous et à toutes, bon dia e boa tarde. E aujourd'hui, on encore sauté du français au portugais, vice-versa. On va commencer par reparler de la situation en ce qui concerne l'enseignement du portugais ça, à l'étranger. Dans l'intérieur, il y a une négociation entre les syndicats du secteur et le gouvernement. On va avoir les conclusions avec Bruno Silva, professeur au Luxembourg et membre de la commission exécutive de SPE FENPROF. On parlait de musique. Ouh. Il était temps. Désert, au titre de nouveau album d'auteur, le compositeur interprète Lizzy, que va estar à venda a partir du 31 de novembro e será apresentado em concerto dia 18 de novembro no Le Triton, no Lila, departamento 93. Ela está aqui no estúdios. E depois vamos falar da língua mirandesa. Com efeito, é a segunda língua oficial de Portugal. Teremos connosco Soadam, autor, compositor, intérprete e falante da língua mirandesa, que será completada com uma entrevista sobre o livro Le Portugal Bilingue, Histoire et Droit Politique d'une Minorité Linguistique, La Communauté Mirandaise, de Michel Cayenne. Et après, on va revenir pas mal d'années en arrière. 2013, le livre Portugal, état d'urgence, chronique 2012-2013 de Mário Soares. Ça a été la dernière interview. Mário Soares est décédé 3 années après. Mas agora vamos falar precisamente de português e da situação relativamente àquilo que se chama a revisão do regime jurídico do EPE. Bruno Silva, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco novamente. Lembra, é professor de Luxemburgo e membro da Comissão Executiva do SPE, que faz parte da FENPROF. Ora, houve uma reunião de negociações no passado dia 9 de setembro, aparentemente em declarações, pelo menos foi aquilo que eu recuperei, há um certo número de avanços, já que mudaram algumas propostas, concretamente que conclusões tirou desta reunião do dia 9 de setembro?
Bom, neste dia 9 de setembro foi a 8ª reunião de negociação. Já estamos no ponto em que aguardamos pela 3ª proposta de tabelas remuneratórias, que serão, que será entregue na próxima reunião, dia 17, pelo Governo. E esperamos que nessa proposta já esteja agora valores que sejam aceitáveis, porque na proposta anterior tivemos que rebater na negociação. Não estavam enquadrados os valores, era muito aquém daquilo que foi a perda de poder de compra durante de 16 anos.
Sim, com efeito, isso vale a pena referir, isso não é um pormenor longe disso, não, Bruno Silva, é que não há revalorização salarial desde, qual é a data exata, se fizer favor?
É dezembro de 2009.
2009, estamos em 2026. Entretanto, vamos ver, o custo da vida e por aí fora significa que os professores perderam centenas e centenas de euros mensais.
Certamente, e exatamente, porque não houve aquelas atualizações pontuais que são feitas em Portugal na função pública, não é? Mas para a inflação e para a perda de poder de compra, que ao longo dos anos o custo de vida que subiu nos países de acolhimento, não houve nenhuma atualização salarial.
Ora, mas relativamente aos países de acolhimento, como diz outra, a situação é diferente de um país para o outro. Eu agora estou pensando no caso concreto da Suíça, onde o custo de vida é altíssimo. Como é que o professor consegue encontrar alojamento?
Mas isso são aspectos muito curiosos, porque tivemos esse trabalho no CPFMPROF de fazer, que foi fazer um estudo, um levantamento, país a país, neste período de tempo, 16 anos, não é? E pronto, e curioso, por exemplo, é que com o Brexit, Reino Unido, foi quase 50% de inflação e perda de poder de compra nos bens, não é? No cabaz alimentar.
Ora, entretanto, foi anunciado ou foi publicado no dia 28 de agosto um despacho que estabelece a rede de cursos do ensino português no estrangeiro para o ano letivo 26-27. Ora, há professores a menos e sobretudo, o caso da França, bom, nós estamos aqui em França, não é? É que já no ano letivo 2025-2026 há cerca de 20 postos que não ficaram por assegurar. Houve um concurso, não havia candidatos. Com efeito, com as condições de trabalho que vocês têm, bom, quem é que se quer candidatar a ir ensinar no estrangeiro?
Pronto, exatamente. E foi por aí que também esta revisão do regime jurídico do EPE era mesmo necessária. Essas faltas de docentes, já o ano passado na França foram 25 horários a concurso, no mês de fim de agosto, não é? Início de setembro, início do ano letivo. Este ano estão 24 horários na França a concurso. Já saiu a primeira lista, porque a primeira é um concurso geral que é efetuado, de uma bolsa de recrutamento que existe, que é válida por 18 meses, no Instituto de Camões. Estamos no final do período de validade dessa bolsa, mas voltamos ao mesmo. Na França não temos nenhum candidato que estavam nessa bolsa para nenhum dos horários, pelo menos nas listas provisórias. Houve só 5 dos 50 horários que estão a concurso em todo o EPE, neste início de ano letivo, só houve 5 nestas primeiras listas provisórias, então a candidata da bolsa, que estavam já previamente selecionados na bolsa. Agora, o que é que vai implicar? Vai implicar que todos os outros horários passem para contratação local, ou seja, concursos simplificados, depois nos diferentes países em que mais atraso existe. Por exemplo, só logo neste início de ano letivo, após a aprovação da rede, não é? Como referiu, nós fizemos logo a nossa previsão, não é? 7.800 alunos que no EPE vão estar sem aulas, estão sem aulas neste início do ano letivo. Só para termos uma ideia, 3.300 alunos mais ou menos é na região parisiense.
Sim, esse é o velho problema, mas pronto, se podemos alargar a questão da educação. O ensino português no estrangeiro é visto como uma obrigação, é a impressão que eu tenho, e portanto já ando disto há dezenas de anos, uma obrigação da parte do governo português para dizer que faz qualquer coisa. Porque se vemos a situação em Portugal, falta de professores, há milhares de alunos em Portugal que não têm professores também, de maneira que o problema ultrapassa, não sei o que é que o Bruno...
É universal neste momento não é só em Portugal, se formos a ver uma visão alargada, o que se passa, por exemplo, na Europa, quase em todos os países temos falta de professores.
Aqui em França, bom, foi-me dito há alguns instantes, vão faltar 3 mil professores aqui em França?
Apontam em todos os países europeus. Agora, nós no EPE é que começou a ser dados novos de termos falta de professores. Porquê? Não é que tínhamos um grande maior número de alunos, não. Nós, a rede está estável, maioritariamente nos últimos anos estabilizou, houve uma grande diferença do que era antigamente para os últimos 10 anos, digamos. A rede dos últimos 10 anos tem continuado estável, só que lá está. Esta falta de atratividade que nós fomos perdendo ao longo dos anos, não é? Com 16 anos de remunerações não atualizadas para os valores da inflação nos diferentes países de acolhimento. Outras medidas de trabalho, que é fazer muito com pouco, professores subcarregados com até ao limite das horas possíveis, letivas, com várias escolas, várias locações entre cursos, tudo isto leva a que o desgaste e esta mensagem que se passa, não é? Porque os professores que se candidatam perguntam quais são as condições e depois cai por terra aquela primeira vontade de vir preencher um curso, um horário no EPE. É por isso que nós defendemos atratividade nesta revisão do regime jurídico. É isso que nós pedimos para os 4 cargos, para os professores, leitores, coordenadores adjuntos e coordenadores de ensino. Estamos a lutar por isso. Existia ali na última reunião, para voltarmos à reunião, existia ali duas vertentes, ou seja, e houve uma novidade. Nós sindicalmente defendíamos a eliminação ou reestruturação para a forma universal, ou seja, da abrangência de todos os professores que estão no EPE, que eram um complemento, um suplemento à habitação, um apoio, que o Governo tinha definido, mas que em sede de negociação veio agora a confirmar aquilo que nós observámos e analisámos, ou seja, que esse complemento só estava previsto para os novos professores que viessem a entrar na rede, o que não era justo, porque quem anda e nunca teve esse complemento, também teve que vir para o EPE, teve ao longo destes anos todos os seus encargos, também de despesas. Nós defendemos um outro tipo de complemento, que fosse universal, um exercício de funções fora de Portugal, que fosse realmente um suplemento que criasse atratividade para todos, não é? Mas já foi-nos dito que não haverá complemento nem à habitação, nem aquilo que nós tínhamos em contrapartida proposto. Será assim uma atualização salarial da remuneração base, passará por aí uma nova atualização que nos serão apresentados esses valores, vamos ver quais é que são, porque no fundo era aquilo que também nós sindicalmente defendíamos, que efetuassem uma atualização justa das diferentes remunerações base, porque aí é que é universal para todos os professores e também é uma forma da atratividade estar lá, aquilo que se foi perdendo ao longo dos anos.
Mas, Bruno Silva, uma pergunta. Um professor que leciona no EPE tem que ter carro próprio, muitos deles. Agora, quando vemos o preço dos carburantes, o desgaste do carro, o seguro do carro e por aí fora, e é o professor que tem que custear isso tudo?
Já conseguimos neste regime jurídico, porque isto já estava previsto no outro, mas havia sempre todo um processo burocrático e não estava muito bem definido uma norma geral. Por exemplo, a partir de que este regime jurídico seja aplicado, o que é que acontece? Um professor que tenha um curso a mais de 40 quilómetros do seu primeiro curso, terá então toda a legalidade. Logo, não é preciso com um processo burocrático de fazer o pedido para a coordenação de ensino. Não, automaticamente poderá logo solicitar o apoio financeiro para a deslocação em viatura. Mas isso vai ser um dado novo que anteriormente não havia aquela norma. Agora já está, vai ficar no regime jurídico acima de 40 quilómetros, professores, leitores, já poderão usar a viatura. E automaticamente sabem que irão ser ressarcidos dessas locações.
Mas, Bruno Silva, peço desculpa, não é? Um professor em Portugal, Mário Geraldo, reside ao lado, ou levemente perto, do estabelecimento de ensino, tem transportes públicos. Na imigração é diferente? Porque as escolas, mesmo que sejam, quer dizer, alguém que tem 35 quilómetros já não tem direito a esse subsídio.
Não, dizer, mas há outros tipos de apoios.
Mas é aí que eu queria chegar. Há outros tipos de apoio.
Há também o passo mensal de transportes públicos, que será concedido. Ainda falta, pedimos e voltamos nesta reunião a batalhar sobre essas ajudas de custo, que é assim que são nomeadas, e que nós até estamos a pedir mesmo uma definição e uma diferenciação, tal e qual que me referiu e muito bem, para o que é ensino português estrangeiro. Porque não se pode querer aplicar a lei geral, como o governo queria que ficasse agora no diploma. Não, o que nós estamos a defender é que nos seja apresentado umas ajudas de custo específicas para o ensino português estrangeiro. Porque uma coisa é quem está com ajudas de custo em Portugal, não é? Outras coisas são as diferentes despesas que não são iguais de país para país.
Bruno Silva, uma última questão. Isto tem a ver que, quer dizer, a contagem do tempo de serviço para efeitos de concurso e progressão na carreira, mas igualmente o facto de ter garantido, se quer regressar a Portugal, de ter garantido um posto, isto já está consagrado no acordo até agora, provisório?
Isso foi uma luta que nós, sindicalmente, o SPEI e o FEMPROF, conseguimos modificar a proposta do governo e, neste momento, aquilo que está já faltando limar alguma aresta, mas nós não estamos a ver qualquer problema, salvo alguma exceção que na parte técnica, agora jurista, não é? Na parte jurista, mas conseguimos que para efeitos, por exemplo, um professor contratado que não tem ainda um vínculo em Portugal possa concorrer e que todo o tempo de serviço que prestou no EPE, não é? Lhe seja contabilizado para esse efeito de graduação no concurso e depois também para ter a progressão nos escalões, diferentes escalões, quando entrar em vínculo. em Portugal.
Enfim, bom, as negociações andam como o caracol, mas lá vão andando melhor ou pior. Bruno Silva, muito obrigado. Lembra, é professor no Luxemburgo e membro da Comissão Executiva do SPFN Prof. E a próxima reunião vai ser já na próxima semana, dia 17 de setembro. Outra está agendada.
Muito importante essa, porque vamos ver se realmente os valores se encaixam naquilo, pelo menos ficam dentro do aceitável para todas estas despesas que é lecionar no EPE, os professores têm nos diferentes países, mas grandes zonas, como por exemplo a região parisiense, que é caríssima, por exemplo, a Londres, centro de Londres é caríssimo, estas grandes metrópoles, não é? Em que temos muitos cursos focalizados nessas áreas, não é? E os professores, às vezes, para fazer, por exemplo, em Paris, para fazer.
É Bruno Silva? Bom, pronto, já estamos a terminar. Obrigado ao Bruno Silva por nos ter feito o ponto da situação. Evidentemente que a partir da próxima semana nós voltaremos ao assunto. Bom, é mandar um vaso ungido. Bruno Silva?
Sim,
muito obrigado. Não, era só para nos despedir e contamos consigo depois para fazer o balanço da reunião do dia 17 e depois também do dia 24. Muito obrigado, então.
Nada, obrigado.
Até uma próxima, então. Maintenant on va respirer un peu, on va changer un peu d'univers et quand même laisser un petit peu les problèmes de côté. Musique s'il vous plaît.
Profonde que fragile, elle a des ailes au bout des lèvres. Aussi joyeuse qu'indocile, son corps s'invente caravelle. Elle se tord, se tend et se révèle. Chaque vers est comme un fleuve où glisse l'âme rebelle en mille notes et mille épreuves. Qu'un volcan intense, furieux, qu'un pire alcool. Aussi profonde que fragile, elle a des ailes au bout des lèvres. Aussi joyeuse qu'indocile, son corps s'invente caravelle. Elle se tord, se tend et se révèle.
C'est la voix de Lizzie, le thème en mille notes. Lizzie, avant tout, bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour, merci. Merci du fond du cœur de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir.
Ah oui, ça faisait longtemps. Hein, que
oui.
Ça faisait un certain temps. Alors, Lizzie, nouvel album, Désert. Alors, mon âme est un paysage hanté par trois éléments. Le désert, le vent et la ville.
Oui.
C'est une philosophie de vie, ça?
En fait, c'est plutôt un constat, c'est-à-dire que j'ai passé des années à écrire des chansons, mais à me chercher en même temps, ces dernières années, et j'avais une impression d'aridité, justement, alors que je vis toujours dans cette grande ville qui est Paris, et je me suis rendu compte qu'avec toutes ces chansons que j'écrivais, il y avait effectivement vraiment le souffle, et le souffle du vent, et moi je suis originaire d'Avignon, on a vraiment, ça peut paraître un détail, mais on a vraiment le mistral qui est très fort, et le vent pour moi est un élément très fort dans ma vie, et je me suis rendu compte que cette recherche était comme un désert, une traversée du désert symbolique, et que tout ça se faisait justement au milieu de la grande ville, et que la ville, d'une certaine façon, ça peut être un désert où on se trouve.
Je cite Albert Camus, merci, oui. C'est grâce à vous. La ville est le seul désert à notre portée.
Oui, cette phrase, elle m'a vraiment beaucoup touchée.
Mais écoute, qui dit ville, dit justement la vie autour.
Oui, la multitude,
mais finalement,
la foule.
On peut être complètement isolé dans une ville.
C'est ça, c'est-à-dire que la ville, finalement, la grande ville, elle a cette contradiction où on peut être... C'est en même temps un désert, on peut ne rien y trouver, ne rien y faire et être asséché, quoi. Mmh. Et en même temps... Voilà, il y a toujours cette oasis possible.
Alors, la plage qu'on a entendue, c'est le premier EP qui sort de cet album. L'album va sortir le 31 octobre.
C'est le premier single, oui.
Ouais. Et un concert
le 19 novembre. L'album sort le 30 octobre et le concert de sortie d'album est le 19 novembre au Triton, au Lila.
Au Lila. C'est collé à Paris, il y a le métro, une famille directement. Alors, désert, justement. Désert, c'est un des. Ça donne le titre de l'album. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi ce thème-là comme premier EP?
Alors, effectivement, c'était censé être la première chanson de l'album.
Et puis, chanson-titre, quand même.
Oui, tout à fait. Et en fait, en l'écoutant encore et encore, je trouvais que c'était pas finalement une bonne façon de rentrer dans ce petit voyage intime qui se fait dans ce disque. Et je trouvais que finalement, l'arrivée dans le désert au bout, c'était une arrivée plus sensée. C'est une chanson c'est pas du tout une chanson tube, c'est une chanson avec des arrangements, vraiment avec des instruments avant, qui je pense se savoure, et c'est bien quand elle est au bout du chemin.
On pourrait dire que cette chanson-là, c'est une page blanche où tout est possible, bon.
Exactement. Et en fait, cette chanson, elle est pour moi à la fois l'évocation de... Il y a quelque chose de saudose, justement, de la saudade dedans, parce qu'elle est l'évocation de souvenirs parfois flous, qui sont plus des sensations et qu'on a envie de retrouver. Et en même temps, cette recherche de soi et de... Oui, c'est une recherche de soi, et vraiment à partir du rien, on croit qu'il n'y a rien, et finalement, on y trouve beaucoup de choses.
Alors, on aura le temps une fois qu'on pourra diffuser l'album en entier. Mais, bon, en connaissant un petit peu quand même votre parcours, on en parlera tout à l'heure parce que, bon, vous avez quand même une discographie. Oui, bon, 2015, premier album autoproduit, Navigant.
Oui.
2018, production du premier EP, Fave Klunstein.
Oui.
On l'a diffusé
assez
souvent, voilà. Et maintenant, bon, c'est Désert. Mais si je me rappelle bien de toutes vos compositions, même des poèmes, c'est le premier travail vraiment personnel. Et bon, je demande pardon si je suis indiscret, mais c'est un genre de psychothérapie. C'est-à-dire, on dirait que à travers cet album-là, c'est vous. Vous aviez besoin de faire le point avec vous-même.
Alors c'est un peu ça, c'est vrai que c'est pour ça que je parle de paysage aussi au début dans la présentation de cet album, c'est parce que j'avais besoin de prendre une photographie musicale de qui j'étais, d'où j'en étais arrivée, et de ce que j'avais traversé depuis finalement ce premier album qui était donc en 2015, donc il y a 10 ans. Et j'avais besoin de voir un peu toutes les couleurs et tous les reflets qui pouvaient y avoir dans cette photo, dans ce paysage personnel. Et c'est vrai que ces chansons, ce sont des chansons de l'intime, c'est-à-dire que ce sont des chansons qui parlent des sentiments, qui parlent des émotions, des états d'âme dans lesquels on peut se trouver, que ce soit des états d'âme agréables, très proches de la saudade, parce que moi j'ai tendance à dire que je fais de la chanson saudade, ou qui peuvent être plus désagréables comme la peur, ou cette impression d'être dans un désert alors qu'en fait c'est fertile un désert. Donc c'est vrai que à travers cet album que j'ai produit grâce à une association donc que j'ai appelée La Navigante pour faire référence à mon premier album et qui sort donc cet album sort aussi grâce à Littoral Records qui est le label de Fabien Martin qui a enregistré et mixé l'album. Eh bien en fait d'avoir pris en main finalement toutes ces chansons, je les ai données à arranger par Bastien Lucas qui est un musicien extraordinaire. Finalement, je trouve que c'était une façon de prendre soin de moi qui était voilà, très bénéfique.
Alors la peur, justement. Bon. La peur me mangera toute crue, c'est sûr. Mm-hmm. La peur me tuera à main nue. Bon, mais attention justement, parce que cette chanson, la peur, c'était, vous avez exorcisé cette histoire-là.
Oui.
Ce que je lis, hein, heureusement que le dossier de presse, il est super. Hein. Ça m'aide pas mal. La peur. J'ai longtemps vécu des crises d'angoisse en crise d'angoisse. Pourtant, quand j'ai pris la peur par les cornes, j'ai gravi des montagnes. Cette chanson dit à la peur que j'ai compris son jeu. Elle n'est qu'un grain de sable qui veut se faire passer pour une tempête. On revient au désert.
Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'en fait il est partout. Mais c'est vraiment la peur. C'est vrai que moi j'ai vécu de crise d'angoisse en crise d'angoisse puisque je suis claustrophobe et au-delà même de cette claustrophobie, j'ai vraiment souvent eu des crises d'angoisse qui me clouaient au sol et qui me donnaient l'impression que je n'étais capable de rien. Et à chaque fois, la crise d'angoisse, elle passe. Et donc à chaque fois, on comprend qu'en fait l'angoisse, et ou que ce soit la claustrophobie ou autre chose, l'angoisse, la peur, elle nous dit toujours qu'on ne peut pas, et elle se fait toujours passer pour plus grande que ce qu'elle est. Et quand, par exemple, j'ai déménagé à Paris, j'ai quitté le Sud pour m'installer à Paris, alors que j'avais aucun travail qui m'attendait, ça semblait être complètement surréaliste et voire déraisonnable. Et en réalité, à chaque fois que j'ai franchi le pas d'aller au devant de mes peurs, il s'est passé des choses merveilleuses. Arrivée à Paris, j'ai rencontré des personnes dans le fado. Enfin, j'ai pu développer des tas de choses et je suis très heureuse. Et voilà. Et donc la peur, finalement, oui, c'est ça. C'est un petit grain de sable qui veut se faire passer pour une tempête et il faut lui dire, écoute, je sais que tu n'es qu'un grain de sable, c'est ok. Je te prends avec moi.
Alors, il a fallu attendre 2026,
ouais.
pour que Lizzie dise le suivant. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis ni Barbara, ni Chopin, ni Edith, ni Joan Baez, ni Marisa, ni même la fille de Lennon.
Ouais.
Je suis moi,
ouais.
Lizzie, habitée par la chanson et la saudade.
Oui, mais en fait, alors il faut que j'explique, c'est que en fait j'ai grandi en voulant être tout le temps. J'avais toujours des modèles, donc mon premier amour c'était Chopin et puis Edith Piaf, donc je rêvais d'être Edith Piaf et puis après j'ai découvert Joan Baez et je rêvais d'être Joan Baez et puis en fait quand j'étais petite je pensais que mon père c'était John Lennon et donc je pensais être la fille de John Lennon, mais en fait pas du tout. Bon, je suis ravie que mon père soit lui-même et tout mon chemin artistique a été finalement d'essayer de me trouver et le fado aussi, pour ça que je cite Maryse. Le fado m'a par exemple beaucoup demandé d'être authentique et donc de chercher en moi ce qui était juste moi. Et donc finalement de pas essayer d'être une fadiste par exemple originaire de Lisbonne qui connaîtrait le portugais depuis sa naissance. Et donc je n'ai pas essayé d'être un peu comme John Baez ou un peu comme mes idoles. Finalement c'est quand j'arrive à trouver mon unicité que j'arrive à être vraie dans ce que je chante.
Jusqu'à quel point votre séjour au Portugal, bon, ça vaut peut-être la peine de rappeler, hein,
oui.
Parce qu'on avait parlé un petit peu de ça. C'est aller au Portugal et pourquoi faire?
Alors, moi, je suis tombée amoureuse de la langue portugaise, j'avais 17 ans. Et je suis tombée amoureuse de la langue portugaise par le fado et par un documentaire sur Lisbonne. Donc, tout de suite, j'ai été choquée positivement par la voix de Marisa. Et j'ai fait des études de portugais pour apprendre le portugais sérieusement et pour l'avoir vraiment dans la peau. Et donc, forcément, je suis partie en Erasmus à Lisbonne pendant un an, pendant mes études de licence. Et j'ai vécu dans l'Alfama à une époque où l'Alfama n'était pas complètement submergé par les touristes et les Airbnb.
Et vidé de ses habitants.
Voilà, vidé de ses habitants. À l'époque, les habitants de l'Alfama disaient, quand ils allaient dans la Baixa, ils disaient qu'ils allaient à Lisbonne. Donc voilà, on en était encore là. Et c'était merveilleux. Et en fait, j'ai vécu près du Fado. J'ai vécu... aujourd'hui, j'ai une famille que je considère portugaise là-bas, au Portugal. Et ça a complètement changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé ma culture musicale, ça a changé ma façon de chanter. Et ça m'a vraiment guidée dans ma vie. Parce qu'aussi, tout ça, c'est aussi plein de poètes, parce que la langue portugaise, elle s'apprend avec la poésie. Le Portugal, il y a deux choses pour moi que je retiens vraiment en porte d'entrée, c'est le fado et la poésie, qui sont d'ailleurs intimement liés. Donc voilà, ça a changé ma vie.
Qu'est-ce que je veux dire? Parce que je me souviens d'un concert, vous aviez une guitare folk.
Oui.
Donc, il y a des incursions comme ça. C'est un truc extraordinaire. Je ne sais même pas si c'était en anglais que vous chantiez.
Ah. Alors,
bon, voilà. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir.
Oui.
C'est que finalement, c'est-à-dire, il y a cette ouverture-là.
Oui.
Et ça, mais ça fait des années, ce concert-là.
Oui.
Donc, il y a eu une mutation que...
Ben, en fait, mon premier album, j'avais besoin d'exprimer tout ce que j'aimais et tout ce qui m'influençait. Donc, il y avait la chanson en français que je faisais, il y avait le portugais, donc il y avait un poème de Flaubert Espin que je chantais tout le temps, qui ouvre le disque d'ailleurs. Et j'avais fait une reprise de Hank Williams, qui est un chanteur de country du début du XXe siècle, que j'adore absolument, parce que j'aime beaucoup la country, j'adore la folk américaine. Et donc, j'avais besoin d'exprimer, c'est pour ça aussi que ça s'appelait Navigante. Je voulais passer de rive en rive, je voulais exprimer tout ce qui m'habitait musicalement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai moins besoin de dire au public voici tout ce qui m'anime. Finalement, je pense que je l'ai plus intégré directement dans ce que je fais.
Et à propos de Hank Williams, je dois avoir dans 6 ou 7, je sais pas, 8 ou même plus albums des vinyles.
Ah ouais.
De lui.
Oh là là, je suis jalouse.
Ça date de Mathusalem.
Je suis très jalouse.
Mais en fait, alors poésie. Mm-hmm. Dans cet album-ci, Désert, il y a un poème de José Gomes.
Ah ouais, j'adore.
O nosso mundo é este. Bon, alors quand on d'ailleurs, le fado est chanté en portugais, sauf erreur de ma part.
Mm-hmm.
Parce que bon, je ne peux pas encore le diffuser, hein, il faut attendre un petit peu. Alors, ce poème-là, vous m'avez dit que ça date de 1937.
Oui, 1937.
Bon, et ça n'empêche que quand je lis ça, o nosso mundo é este.
Ouais.
Vil, soit dos dedos dos homens, sujo de morte. Je pourrais continuer comme ça.
Mm-hmm.
Bon, c'est aujourd'hui. C'est
oui.
Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Complètement. En fait, quand moi j'ai découvert la poésie de José Gomes Ferreira, je sais plus trop comment, mais j'ai été emportée directement. J'ai eu une sorte d'obsession pour sa poésie. C'est un poète et c'est un homme qui a eu une vie extraordinaire. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce qu'il a écrit et ce qu'il a composé. Il a composé du fado aussi. Et je suis d'abord tombée sur un poème, je crois qui est Viver sempre também cansa. Et après, j'ai trouvé O nosso mundo é este. Et je me suis dit, quand je l'ai mis en musique, je me suis dit, il est daté. À cette époque, on n'était pas encore, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, il n'y avait pas toutes les guerres qu'on a aujourd'hui. Et je me suis dit, il est un peu daté, mais ça nous fera du bien de nous souvenir de nos époques fascistes. Et puis, finalement, malheureusement, je trouve qu'il est vraiment d'actualité. Et il faut savoir qu'il a été écrit donc dans un contexte normalement de guerre d'Espagne. Il y avait Hitler qui était quand même déjà au pouvoir en Allemagne. Il y avait quand même la dictature qui était déjà là au Portugal. Et il a été écrit justement dans ce contexte-là. Et je trouve qu'il fait vraiment écho avec notre époque.
Et comment ? Parce que la peste brune, elle est pas très loin justement. C'est incroyable parce que d'ailleurs ça a été étonnant. Que ce poème-là n'a pas été interdit au temps de Salazar, parce que
oui.
comme beaucoup d'autres poètes qui ont été censurés. Alors, mais revenons un petit peu. Donc, je répète, hein, vous êtes ni Barbara, ni Chopin, ni Edith, ni Joan Baez, ni Marisa, ni la fille de Len, vous êtes vous-même. Mais la musique, avec vous, ça a commencé très tôt, vers 6 ans, je crois, le
oui.
Piano, mais quoi ? Parce que vous avez voulu, parce que papa était musicien, et dit, tu vas faire du piano.
Non, en fait, ils avaient acheté, mes parents, un piano pour ma sœur, ma grande sœur, qui est donc allée faire du piano. Et en fait, moi, j'étais collée au piano, et ma sœur n'en avait pas grand-chose à faire. Donc, c'est moi qui ai fait des études de piano au conservatoire, et vraiment, j'avais un amour incroyable pour cet instrument. Et pour Chopin, ma prof de piano me disait, qu'est-ce que tu veux jouer quand on avait un peu le choix ? Chopin, elle me dit, non, à part Chopin. On a déjà fait. Donc, c'est passé par le piano. Et puis après, c'est vrai que je trouvais que la guitare était intéressante pour composer. Elle est quand même, déjà, elle est plus praticable pour partir avec une guitare. C'est plus simple. Et donc, j'ai commencé la guitare assez tard. J'avais 15 ans. C'est pas mon instrument d'amour comme le piano, mais c'est mon instrument de chanson, vraiment. C'est ma compagne de chanson.
Mais les chansons, c'est vrai que vous avez commencé à écrire très tôt, même des textes et tout.
Oui, bah j'écrivais très tôt des chansons comme on peut écrire quand on a 10, 11, 12 ans. Et je les écrivais au piano, j'écrivais des chansons en anglais au début parce que j'adorais l'anglais. Et donc je voulais absolument progresser en anglais, donc j'écrivais en anglais. Et puis après je me suis mise un peu au français. Et
vous avez gardé ça ?
D'écrire en anglais?
Non, vous avez gardé ce que vous avez.
Ah, ces chansons, j'en ai quelques-unes que j'ai réécoutées, ouais. Mais malheureusement, il y en a pas mal qui sont partis à la trappe. Mais oui, il y en a quelques-unes. Alors c'est mignon, j'avais écrit des chansons par exemple pour mes amis, pour mes meilleurs amis, pour leur dire que je les aimais. J'avais écrit une petite chanson pour mon frère, pour dire que je l'aimais, une chanson pour mon père aussi. Enfin voilà, j'avais écrit des chansons, mais après j'avais beaucoup de chansons. J'ai pas adolescent, j'avais des chansons qui parlaient de mort, qui étaient tristes. Ma mère, elle me disait, mais enfin, t'es pleine de vie, il faut écrire des chansons. Mais voilà. Aujourd'hui, mes chansons sont moins graves, mais elles sont mélancoliques.
Moins grave, bon, c'est vrai qu'il y a des thèmes, mais
voilà,
c'est qu'il y a, bon, quand on prend le poème où nos mondes est, et on, de l'autre côté, on met en face la peur. La peur, c'est une des vertus des mots. Ça suffit, ça y est, bon, hein. T'es derrière moi. Tandis que l'autre, on a un mur devant nous.
Oui.
Qu'il faut l'abattre. Mais dans ces chansons-là, avec votre regard d'aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose encore, non? Vous n'avez pas pensé? Je dis, non, ça c'est le passé.
Avec ces vieilles chansons?
Thèmes, parce que finalement, les thèmes que vous abordiez à l'époque,
oui, mais en fait, on sent. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de tendresse du coup pour la jeune fille que j'étais qui écrivait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de textes avec beaucoup d'images, beaucoup de. On sent en fait aussi une écriture qui essaye. Non, je sais pas. Je pense pas que j'en ferai vraiment quelque chose un jour. Je vais les garder de côté en souvenir.
Alors, non, mais je vais donner des titres de l'album.
Ouais.
Bon. Devant et d'ivresse.
Oui.
Bon. Si mon cœur balance, ça c'est une autre affaire.
Ça c'est le single du mois d'octobre.
Voilà. Début soleil. Le fameux quaz qu'on l'aura la semaine prochaine.
Oui, il sort vendredi.
Voilà. Ah non, on souffle, on revient au vent.
Oui.
Le vent et l'île. Bon, il y a le désert. Mais c'est finalement, peut-être je vais revenir au début, Lizzie, je m'excuse. Mais vous faites un voyage avec cet album. C'est un voyage, finalement. C'est de partir, je ne sais pas, prendre de la hauteur par rapport aux choses et aller à l'essentiel après. Pour aller à l'essentiel.
Oui, bah, je crois que c'est très bien dit. Merci beaucoup, Arthur. Ah bon. Je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais ce besoin, finalement, si je reprends l'image du désert, de monter sur la plus haute dune pour avoir une vue d'ensemble et une vue plus précise au final et de revenir à l'essentiel de ce que je traversais pendant toutes ces années de d'écriture en fait et c'est vrai que ces textes là rien que les titres c'est vrai ils montrent que le vent est là le souffle il y a une sorte de souffle de vie aussi parce que le vent c'est aussi ça nous rappelle à notre première bouffée d'air quoi notre première respiration qui est aussi une douleur mais qui est un bienvenu à la vie et voilà je pense que c'est vraiment un retour à l'essentiel.
Vous savez avec tout ça je pense maintenant au livre au Petit Prince.
Oui.
Je sais pas quel rapport. Je sais pas, bon, c'est Saint-Exupéry, le fait qu'il ait traversé le désert,
oui.
etc. Je ne sais pas. C'est des images que.
Qui vous viennent
qui pourraient coller au Petit Prince.
Ah, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le Petit Prince, mais c'est vrai qu'il a, il a une quête, le Petit Prince. Et je crois que c'est ça. Et il passe des étapes, il passe des épreuves, et je pense que c'est. Puis il a une façon de regarder la vie qui est différente. Et qui est essentiel pour lui finalement. Lui aussi il cherche l'essentiel. Je sais plus. Il y a une phrase. L'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait ça.
Je ne vais pas dire de bêtises. Donc je
ne peux pas
rien rajouter. Lizzie, este álbum, a história acabamos de contar. Este álbum vai ter. Um futuro, é o caso de dizer, com espetáculos, com isso tudo. Até que ponto é que vai conseguir fazer ligação com o fado, com a língua portuguesa, porque há bom ao poema de José Gomes Ferreira? E pensou nisso um bocadinho, não sei.
Eu acho que hoje em dia a minha maneira de compor tem muito a ver com a influência do fado, mesmo se não componho fados. E eu acho que quando estou no palco, esta presença da influência da saudade, da influência do fado e da lusofonia em geral, eu acho que se faz sem eu querer. Também, na verdade, no palco, eu sempre canto um fado. Eu não posso eu ser autêntica no palco, ser eu própria, sem cantar um fado. Mesmo que seja um espetáculo de canção, eu quero cantar sempre um fado, porque eu preciso de partilhar com o público uma coisa muito essencial, uma coisa muito íntima, que é o fado na minha vida.
Fado, fatum, com tudo que as pessoas dizem, oh, o fado é pesado, o fado é triste.
Não,
o fado...
é. Oh. Não é. Eu acho que o fado é intenso. O fado é uma maneira. Para mim, o fado é uma história de dignidade, porque eu acho que no fado se pode contar, se pode cantar e contar coisas que até, desculpem a palavra, são ridículas, por exemplo. E ele me deixou e foi horrível comigo e voltou. E estou feliz. Está a mentir, mas estou feliz. É absurdo e ridículo, mas a pessoa está simplesmente a transcrever, a cantar o que sente, que pode ser julgado de mal, mas que é realmente o que está a sentir, a sua vulnerabilidade. E recupera dignidade através da sua vulnerabilidade. Eu acho que o fado é uma música muito importante. Também é uma música alegre, não é tudo triste. É uma música intensa que vem revelar coisas que são importantíssimas no nosso ser, na nossa vida.
Marisa, eu ainda tive a sorte de, em certas tabernas em Lisboa, tabernas, não era casas de fado, onde precisamente pessoas do povo, e um que trazia uma guitarra, outro uma viola, e depois juntava-se ali. Bom, os vapores do álcool também não estavam longe, aquele vinho feito a martelo, o vinho não era lá muito excelente, mas aqui que saía havia uma responsabilidade, toda a gente, algumas pessoas punham-se a cantar, e algumas alguns dos temas abordados não era isso, eram temas um pouco mais sérios. Às vezes, bom, olhava-se à esquerda e à direita para ver se não havia um polícia, se não havia não sei o quê.
Pois.
Quer dizer, o fado tinha esse caráter popular e, mas, de certa forma, reivindicativo, que desapareceu.
Pois, por causa da ditadura. Eu não sou especialista, não sou historiadora de fado, mas eu ouvi dizer que havia também um fado anarquista antes dos anos 50 e que foi tudo censurado e foi tudo, as pessoas foram maltratadas, claro, e que aquele teor de protesto desapareceu, mas eu acho que não desapareceu também, porque às vezes podemos ver, tipo, em fados cantados por Amália, que ela conseguiu, não se sabe muito bem como, cantar coisas, não me lembro exatamente do fado, mas eu acho que é a Senhora do Livramento, tenho que voltar a ver. Fados que realmente são críticas, que não se percebe muito bem como é que passaram através
da censura.
Eu acho que se pode dizer também coisas sem ser claramente protesto, pode-se dizer estou a sofrer, e dizer estou a sofrer já é uma crítica da condição humana.
Como diz o outro, falar direito por linhas tortas.
Exatamente. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Dizem, merci que vous soyez venu ici un dimanche. Donc, l'album Désert sorti, ça sera le 30 octobre. Et après, il y aura un concert, justement, pour présenter l'album. Ça sera le 18 novembre. 19
novembre.
19 novembre. Et pourtant, je suis en train de lire. Au Triton, les Lilas s'est collé à Paris.
Oui.
Et entre-temps, pour l'album, il va falloir qu'on attende, justement, le 30 octobre. Bon, revenons. Merci.
Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, maintenant, on va écouter en entier Désert, réalité, avec vous. Il y a cette demi-heure qu'on a passée ensemble. On n'est plus tout à fait dans un désert.
Ah ouais. Bon.
Merci.
Merci. Taverne, lui.
profonde que fragile. Elle a des ailes au bout des lèvres, aussi joyeuse qu'indocile. Son corps s'invente caravelle, elle se tend et se révèle. Chaque verre est comme un fleuve où glisse l'âme rebelle en mille notes et mille preuves. La vie n'est qu'un volcan, intense, furieux, qu'un pire alcool. Aussi profonde que fragile, elle a des ailes au bout des lèvres. Aussi joyeuse qu'indocile, son corps s'invente caravelle. Elle se tord, se tend et se révèle. Chaque verre est comme un fleuve où glisse l'âme rebelle. Si profonde que fragile, elle a des ailes au bout des lèvres, aussi joyeuse qu'indocile, son corps s'invente caravelle, elle se tord, se tend et se révèle. Chaque verre est comme un fleuve où glisse l'âme rebelle en mille notes et mille épreuves.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 13 de setembro, emissão com difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E pois bem, agora vamos partir para as terras da língua mirandesa.
Pingacho de Ramon Real, mas também me dá nada cheio o bailar mal. Bailalo, baila e cursito, bailalo, que te quero um pouquinho. Bailalo, bailado de lado, de outro encostado e de delanteira também de trajeito. Ora sim.
Pingacho, Pingacho é um tema tradicional mirandês, cantado em mirandês. Se fizerem favor, Soalam, boa tarde.
Sim, boa tarde, Arthur.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Tem um concerto hoje às 16 horas, à Église de Saint-Héry-le-Guercy. Oh, le Gersi.
Le Géret. C'est dans les Alpes Mancelles. Un lieu à découvrir, magnifique.
Voilà, bon. Bon, je m'excuse, pour la population du coin. Alors, vamos falar em português, talvez. Não sei falar mirandês, peço desculpa.
Olha, também vou te dizer qualquer coisa. O meu mirandês é péssimo, mas vamos tentar alinhar algumas palavras.
Ora, autor, compositor, intérprete e falante da língua mirandesa, vamos ouvir dentro de alguns minutos uma entrevista que fizemos sobre o livro Le Portugais, Portugal Bilingue, Histoire et droit politique d'une minorité linguistique, La communauté mirandaise, de Michel Caen. C'est une interview qu'on a réalisée, estou falando em francês, em 2009, mas vale a pena, tanto mais que no próximo dia 17, é como quem diz, na semana que vem, às 15 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Miranda do Douro, vai ser, ter lugar precisamente a apresentação da Constituição da República Portuguesa apresentada em língua mirandesa. Ora, isto é bastante, bastante importante porque o mirandês é a segunda língua oficial de Portugal. Para alguém como o Sr. Alame, bom, penso que é bastante importante porque são raízes, não são?
Sim, sim, porque são raízes minhas, mas também são raízes existentes da cultura portuguesa. Além de ficar o mirandês, em Portugal tínhamos muitas línguas, não é? Como em todas as regiões do mundo, o Miguel Torga dedicou uma região para cada um capítulo de um seu livro Portugal, para cada uma das regiões portuguesas. Uhum. É preciso lembrar-se que havia muitas singularidades portuguesas e no mundo inteiro. Hoje em dia ficou o mirandês, além de ser uma língua, é uma cultura, ainda bem.
Uhum. Bon, on va sauter au français, sur l'âme. Bon, parallèlement, voilà. Là, on est chez nous. On est chez nous. Bon, voilà. Bon, Miranda do Douro, c'est un peu loin, malheureusement, mais ça donne envie d'y retourner, d'aller voir, et de flâner là-bas et de rester pas mal de temps là-bas. Alors, il y a deux autres nouvelles, c'est le cas de le dire. La traduction mirandaise du livre de BD Astérix na Lusitânia, vai être traduit em língua mirandesa. Ça va être le quatrième tome d'Astérix. Et parallèlement, un roman de Walter Urmain, O Nosso Reino, va gagner également une version en mirandês. D'où ma question personnelle sur l'homme. Jusqu'à quel point, justement, le fait... Bon, vous dites que vous parlez pas bien au mirandais, mais je pense que ça, tout ça, ça a une influence dans votre vie, dans vos compositions musicales. Ça vous a imprégné, ça, les origines.
Alors. Oui, ça m'a de fait imprégné. Moi, j'ai grandi avec cette langue qui était d'ailleurs une variante du mirandês, qui est au sindinês, parce que no Planalto mirandês temos três línguas diferentes do mirandês, que é o mirandês do norte, o mirandês de Miranda e o mirandês de Sindin, que é mais ao sul. Et moi, j'ai grandi avec cette langue. Je dirais même une langue un peu particulière, qui est une langue, comme on dit dans le cru, au sindinês chapazo, qui est une forme de mirandês très brute, très brute, très abrupte, et qui est drôle à entendre parce qu'elle est rythmique, elle est pleine d'intonation. Je pense que mon goût pour le théâtre et la mise en scène vient aussi d'avoir entendu mes parents parler cette langue qui est extrêmement théâtrale. Il y a un ami à Sindim qui s'appelle Emilio Martins qui a écrit la prova de faire sindinês, mais qui a un groupe de qu'il appelle banda rock agricola, qui est en fin de compte du rock chanté en sindinês. Il a un talent de mise en scène et de tout ça. Donc c'est une langue qui est effectivement à la fois belle, curieuse, drôle et aussi poétique. Hautement poétique, et des gens comme Amadeo Freire, puisque c'est le premier à avoir traduit Astérix, et c'est pas un hasard qu'il ait choisi le premier Astérix, qui est Astérix le Gaulois, qui déjà, à l'époque où Uderzo et Goscinny le sortent, est déjà une forme de concept de résistance par rapport à la mondialisation. Donc, peut-être que Astérix le Gaulois, c'est peut-être Amadeo le Mirandês.
Et à ce propos, bon, dans l'échange de textos, apparemment vous êtes en train de préparer une chanson, de créer une chanson avec un poème d'une poétise en langue mirandaise.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Amadeo Freire parce que il a une aura liée aussi à son poste de professeur à l'université de Lisbonne, etc. Mais il y a évidemment des tas de... Alors des tas, je les connais pas tous d'abord, et puis le mot tas n'est pas bienvenu, mais en tout cas, une kyrielle de poètes et de poétesses, dont Saon Shinding, on va prononcer en sindinesh, Saon Shinding, qui, j'ai oublié son nom, c'est son pseudonyme, qui écrit magnifiquement dans une langue très littéraire, très poétique, mais très contemporaine, à la manière d'Amadeo Freire, avec sa singularité à elle. C'est le poème que j'ai mis en musique, que je me ferai un plaisir de vous interpréter un de ces jours.
Ici, dans les studios, donc un concert, d'ailleurs deux concerts dans la région, parce qu'il y a un premier aujourd'hui à 16h, et un deuxième le 4 octobre à 17h. Hein. C'est ça, toujours dans le département 61.
Oui, dans le magnifique perche qui m'a adopté depuis quelque temps. Ouais.
C'est le cas de le dire, vous me tendez une perche. Bon, enfin, parce que c'est vraiment...
Mais oui. Bon, bienvenue le dimanche matin.
Dernière question. Une langue a été reconnue comme deuxième langue du Portugal en 1999, mais l'intendance n'a pas suivi, puisque au niveau de l'enseignement, c'est ça le problème, c'est que cette langue-là, au fur et à mesure que les anciens disparaissent, cette langue-là, elle risque aussi de disparaître. Donc, vous pensez que il fallait qu'elle soit partie intégrante du curriculum scolaire, tout au moins au nord du Portugal?
Oui, moi je pense que c'est une très bonne idée, de la même manière qu'on enseigne le breton dans la région de Bretagne ou l'occitan. Je trouve que ça vraiment c'est l'occasion en fin de compte de transmettre pas simplement une langue mais une manière de penser, parce qu'une langue elle est la face visible de l'iceberg d'une culture, d'une manière de voir le monde, de penser. Si les mots ont un vocabulaire différent, c'est parce que on les utilise, ces mots-là, de manière différente, parce qu'on utilise aussi l'environnement de manière différente. C'est encore une région agricole où il y a évidemment la vigne, l'olive, les oliviers. Il y a voilà, je veux pas faire un inventaire des choses régionalistes, mais en tout cas il y a encore, en ce moment, les gens vivent au rythme de la vendange. J'ai eu la chance d'être présent au mois de décembre. J'ai vu la Zarrive, c'est vraiment le cas de le dire, qui était peuplée de monde. C'était une image que j'avais, moi, eu en tête quand mes parents m'avaient raconté comment était cette région en leur jeunesse. C'est-à-dire, les champs étaient occupés par le peuple qui labourait, qui allait amener leurs grains de blé pour faire de la farine, puisqu'il y avait des tas de moulins à eau le long des rivières. C'était une vie en totale osmose avec la nature. Je souhaite que cette langue puisse amener les jeunes à continuer à être au contact de cette nature qui est magnifique, dans le monde entier, mais qui est encore préservée là-bas.
Merci, Soala. Mais justement, à propos, on va passer la chanson, la Zarrive. Merci bien, et à bientôt ici dans les studios.
À bientôt. Un abraço, Arthur. Un
abraço. La Zarrive.
Arribas são dos negros, as arribas são do rio, todo o resto são segredos que ainda não descobriu, todo o resto são segredos que ainda não descobriu. Sangra encostada de enfardonos com ribeiras a passar, encostada de enfardonos com ribeiras a passar, diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri- riene, re di riene. Amarilla flor d'escova, frois és la flor del tomillo. Fogo el calor que es droba, toda negra i amarilla. Tiren la seda en ribeires, emborratxen com la flor i tiren la seda en ribeires. Diri, 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 ani, diri, diri, ani.
Rivas, e precisamente para completar a entrevista que realizamos com Soalama, vamos redifundir a entrevista sobre o livro La Portugais des Langues Histoire et Droit Politique d'une Minorité Linguistique, La Communauté Mirandaise, de Michel Caen, que foi publicado pela Presse Universitaire de Rennes em 2009. A gravação data já dessa altura. Maestro.
Vamos falar da segunda língua falada em Portugal com efeito desde 1998, que foi reconhecida oficialmente a existência, cito, de uma comunidade linguística mirandesa. O nosso convidado é Michel Caen, investigador SNRS do Centre d'Études d'Afrique Noire de Sciences Po Bordeaux e chefe da redação da revista Luis Utopie, que publicou um estudo precisamente sobre o mirandês. O título é Le Portugal Bilingue, publicado por Presse Universitaire de Rennes. Michel Caen começa por explicar como surgiu a oportunidade de fazer o estudo sobre o mirandês.
Il y a quelques années, à la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, donc à Bordeaux, on a eu un programme sur les frontières linguistiques, les phénomènes de frontières linguistiques. Et comme j'étais le seul qui travaillait sur des pays de langue portugaise et que je parle portugais, on m'a dit, mais tu devrais faire une étude sur le Portugal lui-même. Or, à ce moment-là, en 1998, on avait deux choses qui se passaient simultanément. D'un côté, en France, on avait une polémique parce que Lionel Jospin avait proposé l'introduction d'une heure obligatoire de langue corse dans les écoles maternelles en Corse. Et ça avait déclenché une polémique pas possible. Des gens avaient dit, mais c'est l'ethnicisation de l'État français, c'est la fin de la République. Bon, critique à mon avis extrêmement exagérée, quoi qu'on pense des langues régionales par ailleurs. Mais donc une grosse polémique du côté français. Et du côté portugais, le Parlement s'apprêtait à voter à l'unanimité depuis la droite dure jusqu'au bloc du Esquerda, jusqu'à son extrême gauche, s'apprêtait à voter une loi de défense et promotion des droits linguistiques de la communauté mirandaise. Au départ, c'est ça qui m'a intrigué. Comment se fait-il qu'en France, la moindre réforme en faveur des langues régionales provoque toujours des polémiques et qu'au Portugal, l'unanimité du Parlement se fait, sur un titre de loi qui, en France, aurait fait exploser la baraque rien que dire droit linguistique. Imaginez communauté basque ou communauté corse. En France, la seule communauté qui puisse exister, c'est la communauté française. Donc voilà, au départ, ça m'a intéressé. Et donc, j'ai étudié la loi. Alors, après, je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas si simples et que même même, y compris la loi, n'était pas forcément si belle et qu'il pouvait y avoir des arrière-pensées. Et aujourd'hui encore, on peut dire donc maintenant, voyez, 11 ans, enfin la loi a été proposée en 98 au Portugal, votée en 99, 10-11 ans après le vote de la loi, on ne peut pas dire que la situation de la langue mirandaise concrètement se soit vraiment améliorée sur le plan alto. Il n'empêche que, contrairement à ce qui a été dit, la langue mirandaise n'a pas du tout été officialisée. Ce qui a été fait, c'est qu'on a reconnu officiellement qu'elle existait. Et donc, il est vrai qu'on a reconnu officiellement qu'au Portugal, sans même parler des gens du voyage, ou des gens issus des immigrations capverdiennes, angolaises, etc., ou ukrainiennes, au Portugal, on a une communauté territorialisée, historiquement présente sur le sol de la République et qui parle une langue qui n'est pas le portugais. C'est une langue qui vient du fond des âges, c'est une langue néo-latine, tout comme l'est le castillan ou tout comme l'est le portugais. C'est une langue indépendante qui a presque disparu, mais qui existe encore, qui est encore parlée par quelques milliers de personnes.
Personne. Alors justement, faisons un peu d'histoire, parce que dans le livre, vous faites l'histoire, vous revenez quelques siècles en arrière.
Oui, oui, j'essaye.
Voilà, il y en a des raisons historiques, parce qu'on dirait que cette région-là, elle est coincée d'un côté le Portugal, de l'autre côté les Asturies.
Vous avez raison, c'est-à-dire que si l'on remonte à la fin de l'Empire romain, il y avait même une subdivision territoriale romaine qui portait déjà le nom Asturiens, et ensuite, si on laisse passer quelques siècles, le premier royaume de Salamanque, c'était un royaume très curieux, très très allongé du nord au sud, mais il allait depuis ce qui est aujourd'hui les Asturies, et bien jusqu'au sud de Salamanque. Et à un endroit de son territoire, ce royaume de Salamanque contenait ce qui aujourd'hui est le Conselho de Miranda et même quelques autres petites communes de l'extrême nord-est du Portugal. Et donc cette zone, historiquement, a fait partie du royaume de Salamanque, mais à la limite, cette appartenance politique n'est pas la plus importante. Le plus important à l'époque, c'était la structuration religieuse, puisqu'il y avait notamment les cisterciens, qui avaient des couvents très importants dans la région, et à l'époque où les états étaient en mauvais état, eh bien, les vrais maîtres de la région, c'était plutôt ces ordres monastiques. Et ces ordres monastiques parlaient une langue qui était le léonais, aujourd'hui on dirait asturo-léonais, mais ils parlaient le léonais du Moyen-Âge, qui est une langue balatine, qui a presque disparu, mais qui était une langue indépendante, tout comme ensuite sont devenus le castillan et le portugais. Et comme la région de Miranda est restée très isolée, la révolution industrielle n'est jamais arrivée jusque-là, le chemin de fer n'a même jamais été jusqu'à Miranda, aujourd'hui la petite ligne qui va jusqu'à Duas Igrejas a été supprimée, vous voyez, le chemin de fer n'a même pas abouti jusqu'à la fin, c'était une région extrêmement rurale avant d'être dévastée par les migrations. Et donc, de fait, cette partie du Léonais, eh bien, avec une forme locale, est devenue de fait indépendante. C'est devenu une espèce d'isola, une espèce d'îlot linguistique, avec d'un côté des gens qui parlaient, en allant vers le reste du trash montage, des gens qui parlaient donc la variante transmontaine du portugais, mais de l'autre côté de la frontière, quand on traverse le fleuve d'Oro, les gens parlent castillan. Et donc c'est devenu une langue à part, même si historiquement, les linguistes vont repérer très facilement qu'elle est liée à l'asturien.
Alors ça veut dire qu'aujourd'hui le mirandais n'est pas que du folklore, en quelque sorte pour vous c'est une culture populaire, c'est quelque chose qui est ancré encore chez les gens.
Alors oui, mais je dis aussi que donc la loi de 1998-19 en fait a été une victoire symbolique. Parce que vous savez bien comment c'est souvent chez les parents, des parents de bas milieu social, qui eux-mêmes n'ont pas été à l'école, les parents pensaient que s'ils parlaient mirandais à leurs enfants, eh bien ça allait porter préjudice à leurs enfants. Alors qu'en réalité, on sait bien que plus les enfants entendent parler de langues différentes, et plus facile ça sera pour eux d'en apprendre encore d'autres. Si les parents avaient parlé mirandais à leurs enfants, les enfants apprenant le portugais à l'école, eh bien l'habitude de leur petit cerveau d'apprendre très jeune de langue leur aurait rendu plus facile d'apprendre l'espagnol, l'anglais, le français, l'allemand, etc., etc. Mais les parents croyaient ça. Quand la modernité s'exprime simplement dans une langue, que ce soit le portugais au Portugal ou le français en France, les parents dirigent leurs enfants vers cette langue et abandonnent ce que eux-mêmes considèrent comme un falar, un patois. Et donc beaucoup de parents n'ont plus parlé les mirandais à leurs enfants. Donc la loi de 99 est une victoire de dignité. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais quand même, si les signores doutorges de Coimbra, du centre de linguistique de Lisbonne, nous disent que c'est une vraie langue, si os senhores deputados votent une loi de défense de notre langue, c'est que c'est une langue. C'est une langue qui peut-être est petite, qui n'a pas beaucoup de locuteurs, mais c'est une langue qui a la même dignité. Et donc on peut la parler. Donc ça a été une certaine victoire linguistique, et tous les sondages montrent qu'aujourd'hui les mirandais ont une excellente impression de leur propre langue. Alors qu'avant, ils disaient « Eu ma lingua chara, isto uma gíria de pastor, isto não tem gramática, não tem... » Excusez-moi, je me mets à parler portugais.
Mais
que c'est pas une vraie langue, que ça n'a pas de grammaire, que c'est un patois de berger. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Tout le monde sait que c'est une vraie langue. Donc, une victoire de dignité. Mais maintenant, concrètement, la loi n'a rien changé du tout. Parce que c'est quoi le Mirandais dans le Conseil de Miranda? C'est deux ou trois enseignants, la carrière de professeur de Mirandais n'a même pas été créée, donc ce sont des profs en régime de détachement qui sacrifient leur carrière pour la cause militante, qui donnent des cours de Mirandais qui ne sont même pas facultatifs, parce qu'un cours facultatif, l'élève le choisit, mais une fois qu'il l'a choisi, ça compte dans son curriculum. Les cours de Mirandais ne comptent même pas dans le curriculum. Et en général, ça a lieu en fin de journée, à part des autres élèves. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont fini l'école, qui rentrent chez eux, et puis ceux qui font du Mirandais, il faut qu'ils restent encore une heure de plus. Donc tout ça est très insuffisant. Et c'est d'autant plus grave que la loi devient une espèce d'alibi. Ah, on a voté la loi, voilà. Donc on est bien, on ne fait rien du tout. Et aujourd'hui, on est vraiment au tout dernier moment où on peut sauver la langue mirandaise. La République portugaise doit choisir. Soit on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on décide de ne rien faire. Et aujourd'hui, bon, des gens disent qu'il y a 15 000 personnes qui parlent mirandais. Moi, à mon avis, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a 15 000 personnes qui sont capables de comprendre le mirandais. Parce que les jeunes comprennent le mirandais même s'ils ne le parlent pas, parce que des mirandais qui sont émigrés à Lisbonne ou en France comprennent le mirandais même s'ils ne l'utilisent jamais. Mais des gens dont le mirandais est la langue, je dis même pas la langue maternelle, la langue principale parlée à la maison, dans le livre, j'essaye d'en estimer le chiffre, mais en tout cas, pas plus de 4000 personnes, et souvent des gens âgés. Donc aujourd'hui, apprendre le mirandais à l'école, comme on apprendrait le latin, une langue morte, ça ne sert pratiquement à rien. Donc si l'on veut aujourd'hui maintenir, au nom de l'égalité des droits, de la défense des cultures populaires, la langue mirandaise, il faut des mesures politiques très fortes, qui ne coûteront pas cher, parce que de toute manière, c'est très petit. C'est pas une vaste région, c'est un conseil. Mais il faut des écoles, non pas des écoles où il y a un cours de mirandais, mais des écoles en mirandais, où on apprenne les mathématiques, l'histoire, ou la cantine, ou la cour de récréation, soit en mirandais. C'est-à-dire la langue, non pas comme discipline scolaire, mais la langue comme lien social. Ça n'empêchera pas du tout d'apprendre le portugais, parce que la télévision est en portugais, parce qu'il y aura des cours de portugais, parce que, bien évidemment, les élèves seront bilingues. D'ailleurs, mon livre s'appelle « Le Portugal bilingue ». À Miranda, les gens du peuple, je ne parle pas des fonctionnaires de la ville, mais les gens du peuple savaient toujours les deux langues. Pour leur vie intime, le travail, l'amour, la vie familiale, c'était le mirandais. Et pour la relation avec l'autorité, ça pouvait être le curé, ça pouvait être un militaire, ça pouvait être un doutor qui venait de la ville, c'était le portugais. Donc les gens ont toujours été bilingues. Donc le portugais n'est évidemment pas en danger. Mais aujourd'hui, la loi, par exemple, ne permet pas à un mirandais d'écrire en mirandais au maire de sa commune. Et la loi est aujourd'hui un alibi pour laisser disparaître la langue mirandaise. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le Portugal, tout comme d'ailleurs la France, n'a toujours pas signé ou ratifié la Charte européenne des langues minoritaires.
Le Portugal bilingue, histoire et droit politique d'une minorité linguistique, la communauté mirandaise, Michel Caron, un livre qui a été édité aux presses universitaires de Rennes. Alors, il paraît qu'en 2010, on va avoir une traduction portugais-mirandais.
Oui, c'est-à-dire que bien entendu, je souhaite que mes travaux soient pas simplement connus en France. Pour l'instant, les seuls portugais qui peuvent le lire, ce sont ceux qui connaissent la langue française. Mais la Imprensa de Ciências Sociais, les presses de sciences sociales, donc de l'Institut de Sciences Sociales de Lisbonne, ont déjà accepté le livre. L'accord de principe est fait. Il va être non seulement publié en portugais, mais dans le même livre, un peu en tête-bêche, ce sera un livre bilingue. Donc vous voyez, le Portugal bilingue, un livre bilingue, avec d'un côté le portugais et de l'autre côté le mirandais. Maintenant, je ne vous cache pas que nous sommes à la recherche de subventions pour payer cette double traduction. Ça peut prendre certains temps, j'espérais que ça aurait lieu à la fin 2009, je pense qu'il faut être réaliste et ça sera en 2010 ou 2011. Mais pour moi, il est très important que ce livre soit publié au Portugal, par une maison portugaise, et qu'il soit bilingue, parce que il y a aujourd'hui des livres qui paraissent en mirandais. Mais ce sont soit des livres de littérature, souvent des contes populaires qui sont mis par écrit, ou alors ce sont des livres strictement linguistiques. Mon livre est un livre d'histoire sociale, culturelle et politique, un livre de sciences sociales. Et si mon livre paraît en mirandais, ça sera la première fois qu'un ouvrage de sciences sociales hors linguistique sera publié en mirandais au Portugal. Et donc j'en serai personnellement très heureux, très fier, mais surtout j'espère que ça sera utile à une prise de conscience qu'il faut aller beaucoup plus loin que la loi de 1999.
Michel Caron, merci. Alors espérons justement que ça sera avec les Politeges de Miranda et avec leur corps de muse que votre livre sortira en mirandais.
J'espère beaucoup. Merci.
Palavras de Michel Caron numa entrevista que foi realizada, relembro, em 2009, mas considero que é importante, tanto mais que a versão em língua mirandesa da Constituição Portuguesa vai ser apresentada na próxima semana. E agora mudamos de data. Vamos, 2012, 2013, a propósito do livro Porticalidade de Urgência, Crónicas 2012-2013, de Mário Soares, edição La Différence, foi em 2013, uma entrevista realizada precisamente em Paris, no mês de novembro de 2013, a que nessa altura Mário Soares já tinha 89 anos. É um documento. Porque nessa altura tinha deixado de ser de meus raquetes. Ao Pedro Passos Coelho, João Manuel, Durão Barroso, e não sou mesmo, Cavaco Silva, mas enfim, vamos a isto.
Sr. Presidente, em Paris, para apresentar um livro, Portugal em estado de urgência. E finalmente, quando olhamos para Portugal hoje, é uma crise. O Sr. Presidente considera que é uma crise global, não é só económica, não é só social, é muito mais do que isso.
Claro, a crise é uma crise de toda a Europa, sobretudo da zona euro, mas os europeus da não zona euro também estão em crise, não se julgue, o Reino Unido, etc. Mas realmente é uma crise profunda, e é uma crise que tem a ver com as dificuldades que se foram criadas propositadamente por um grupo de partidos que desapareceram. Em primeiro lugar, quem fez a Europa? Quem fez a Europa foram dois grandes partidos, o Partido Socialista e o Partido da Democracia Cristã. Foram estes dois partidos que fizeram a Europa. Hoje a Democracia Cristã desapareceu e os socialistas estão bastante em baixo, como sabe. Portanto, isso deu a possibilidade que a América, que estava em crise, exportasse a crise para a Europa, e agora está toda a Europa em crise por causa da estupidez, desculpe dizer isso, mas da senhora Merkel, que tem querido sempre e exige austeridade. Ora, a austeridade está visto por todos os que têm seguido a austeridade, dá sempre asneira, porque cada vez temos mais, pagar mais às troicas, etc. Bem fez a Espanha, que nunca aceitou que entrasse uma troca dentro de Espanha, e embora tenha feito também de acordo por austeridade.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo, a propósito da política da austeridade alemã, penso que teve a ocasião de dizer e de escrever que trata-se de uma política criminosa. Mas, finalmente, será que essa Europa, a construção, a arquitetura da Europa hoje não foi feita, digamos, consoante as necessidades e os objetivos da Alemanha, porque o senhor Presidente critica igualmente a falta de solidariedade no seio desta União Europeia?
A Alemanha tem imensas responsabilidades, e não só a Alemanha, mas em especial, porque não é toda a Alemanha, a senhora Merkel. É a grande responsabilidade por impor a austeridade. Ora, a austeridade é a única maneira de dar dinheiro às troicas respectivas e destruir os países que dão esse dinheiro, que é o caso de Portugal. Nós somos hoje um protetorado de um governo que não tem consistência, está completamente paralisado e vive graças.
Mas, Sr. Presidente, voltando um bocadinho ainda a essa situação a nível da Europa, porque, bom, há a Troika, quando se fala da Troika, Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional. Mas, finalmente, esses organismos, bom, porque a Comissão Europeia não são eleitos. As coisas vão mudar, provavelmente, em 2014. Mas, finalmente, esses organismos estão ao serviço de quem? Estão ao serviço dos Estados?
Dos mercados.
São os mercados hoje que dirigem, que controlam o mundo?
Controlam o mundo. Os mercados dos horários. Se fossem só os mercados, mas são os mercados dos horários. Só para eles receberem o seu dinheiro, tratar da sua vida e deixar as pessoas. Em Portugal, a troca está cada vez a exigir mais, cada vez a dar mais pobreza, mais desemprego, mais tudo. E os portugueses começam a estar desesperados. Por isso, se não houver rapidamente uma mudança, e o grande responsável disso, mais que o governo, é o Presidente da República, que não sabe o que faz e que está, não, que não cumpre a Constituição que jurou defender, porque só vê nos seus olhos o atual governo e não vê mais ninguém, nem fala com mais ninguém, nem quer saber de mais ninguém.
Mas finalmente são o quê? São as conquistas de 25 de Abril? É uma certa concepção de um Estado social, algo que está a ser, que está a desaparecer? Bom, não é por acaso?
É, o Estado social está a desaparecer. Quer no plano do social propriamente dito, quer no plano do serviço de saúde que desapareceu, está a desaparecer sozinho, quer no plano dos sindicatos que estão a ser fortemente penalizados. Portanto, tudo o que existe hoje em Portugal está a ir ao fundo, sem se ver qual é a solução. Só uma: acabar com a austeridade, acabar com o governo e acabar com o Presidente da República.
Mas ao mesmo tempo, ao rever o memorando que tinha sido assinado com a Troika, se isso pode-se pôr em questão, tivemos o exemplo da Argentina que disse não, nós pagamos a nossa dívida quando pudermos. O que é que impede Portugal de fazer isso?
Nada. A falta de inteligência e a subserviência perante os tipos da massa.
Mas também é por respeito pelo povo, porque o Sr. Presidente estava a querer dizer, o governo português não se interessa pelo povo. O povo não existe para ele, e acusa nomeadamente, ou critica nomeadamente, Pedro Passos Coelho.
Quando o Primeiro-Ministro diz que é preciso que a Constituição não serve, é um papel que não serve para que serve. Quando ele que jurou a Constituição diz isto, o que é que o senhor quer que a gente possa pensar? Eles estão ali para se manter enquanto puderem, e a ganhar o dinheiro e a fazer viagens e não dá para fazer para mais nada.
Mas precisamente esse propósito, na análise que faz sobre a situação da Europa, porque começou pela Grécia, a Irlanda, Portugal, a Espanha, a Itália, diz que a França é capaz de ir no mesmo caminho. Portanto, quer dizer, se a França também entra assim em recessão com uma crise total, cuidado para aquilo que se possa passar a nível mesmo de conflitos ou possíveis conflitos, não?
Eu estou muito preocupado com o que se passa na França, como todos os socialistas, toda a parte. Eu sou amigo e tenho muito respeito pelo Presidente Hollande, mas ele está colocado em situações dificílimas. Dificílimas, que não são dele, são da situação de crise que existe em toda a parte. Porque primeiro foi a Grécia, depois foi a Irlanda, depois foi Portugal, depois foi a Espanha, depois foi a Itália. Agora está a bater o caso, está a Holanda, e está agora a bater as grandes dificuldades, não a bater em França. Mas isso é gravíssimo, porque hoje França, Alemanha, sem isso, a Europa não funcionará.
Sr. Presidente, acompanhou a construção europeia. Será que não havia já, à partida, algo que ia no mau sentido? Porque hoje, tal como ela está, a União Europeia, bom, pode, não digo desaparecer, mas enfim, com conflitos abertos entre os países, e vimos isso, e o egoísmo entre os países, a começar
primeiro,
pela Alemanha.
Não há ninguém que mande na Europa hoje. A senhora Merkel diz aquilo que quer, normalmente as pessoas têm medo porque ela que pode dar algum dinheiro, fazem-lhe o jeito, algumas, mas a verdade é que a Comissão Europeia é uma tragédia, a começar pelo Sr. Durão Barroso, que os franceses sabem muito bem quem é, e que já fizeram dois artigos no Mundo e em todos os outros jornais a dar cabo dele. É um homem que não tem critério, que está ali para ganhar o dinheiro dele e para fazer mas só faz nas neiras. Começar no Iraque, que foi ele que com o Bush lá estiveram a discutir isso nos Açores, e agora as coisas que ele faz em relação a meter-se com o Tribunal Constitucional é uma coisa de louco. Bem, já ninguém toma a sério, como sabe.
Sr. Presidente,
vai acabar, está a acabar a sua coisa, virá outro, espero que seja o que o Schultz, e se for o Schultz, as coisas vão melhorar bastante.
Sr. Presidente, 2014 está à porta, 25 de Abril fará 40 anos, um certo número de franceses já me interrogaram como é que vocês vão festejar os 40 anos do 25 de Abril, tendo em conta o contexto atual. As coisas podem evoluir, mas 40 anos depois, 25 de Abril.
O atual governo e o Presidente da República querem destruir o 25 de Abril. Nós queremos salvar o 25 de Abril e tudo o que foi o 25 de Abril. Porque o 25 de Abril, o que é que foi? Foi o fim de uma ditadura. Foi o princípio da descolonização. Foi depois o desenvolvimento democrático e o desenvolvimento económico. Isto é incontestável. Mas hoje o 25 de Abril vai ser comemorado em Portugal e no estrangeiro. Eu já fui convidado pelo ministro, pelo presidente do município, para vir aqui no dia 25 de Abril.
De Paris.
E secretamente virei, se puder, se estiverem fisicamente em estado de poder vir, para festejar essa data, que é uma data única, que é o 25 de Abril. Mas este governo não pode festejar, nem o Presidente da República podem festejar, porque o Presidente da República não cumpre a Constituição que jurou votar. É o mais grave de tudo. E deixa que se destrua impunemente tudo o que é o Estado Social. O Estado Social está a ser destruído. Começar pelos sindicatos. E depois disso, evidentemente, há os milhares de portugueses que têm que, muitos milhares que têm que emigrar, os milhares de portugueses que estão desesperados.
Então, Sr. Presidente, a dizer, portanto, a imigração retomou, e de que forma? De uma forma desenfreada outra vez? Portanto, o grande desemprego que se está a desenvolver em Portugal, portanto...
Os portugueses hoje estão, na sua maioria, desempregados. Os que não estão desempregados estão a ser cortadas as pensões e há ameaças seríssimas sobre isso.
Mas, Sr. Presidente, esse propósito ainda, quando vemos mães que entregam os filhos às instituições sociais porque já não têm meios de os sustentar, de os alimentar, isto em 2013 em Portugal?
Pior do que isso, é que há muitas pessoas que vão aos caixotes do lixo para ver o que há, para saber se podem lá comer alguma coisa. Isto em Lisboa e no Porto. Portanto, isso é qualquer coisa de extraordinário. Na província, ainda sempre há umas batatas, há não sei o quê, há uns primos, há uns amigos. Mas nas grandes cidades é uma desgraça.
Sr. Presidente, vai ser a minha última questão. Falou que no dia 25 de Abril de 2014 espera estar aqui na cidade de Paris.
Acho que vou ser convidado, não sei.
Mas, sobretudo, voltemos 40 anos atrás, porque precisamente no 25 de Abril de 1974 embarcou, é o caso de dizer, no Sul de Expresso, sem saber exatamente se seria passar a fronteira. Como é que ocorreu essa viagem?
Preso, é verdade. E só me convenci que estava preso quando, depois de ter passado a fronteira portuguesa, bem, o Raul Rego tinha-me mandado dizer: não venha, não venha, não venha, porque nós mandamos um tipo a Salamanca para parar. Quando eu cheguei a Salamanca, estava toda a estudantada de Salamanca aos vivas: viva Portugal, viva Portugal, e com uma coisa que me fez muita estranheza, que era um cravo na lapela. Bem, eu percebi que estava tudo, que era a democracia que estava a vir, que era a destruição da ditadura. E, mas mesmo assim fui com medo, não é? Porque eles disseram. Cheguei a vinha acompanhado de vários Ramos da Costa, Tito Moraes, etc. Quando chegámos, eles tiraram-nos, os socialistas portugueses que eles estavam, uma centena, não mais, e levaram-nos para uma casa, para a cantina da...
Da guarda-pescal?
Não, a cantina da estação, não é?
Da estação
portuguesa.
Vila Formosa.
E puseram-me em cima de uma mesa, meteram-me uma coisa na mão, que era um aparelho, um megafone, não sei o quê, e faz um discurso, tudo, tipo os meus camaradas. Eu estava a discursar, a dizer não sei o quê, a liberdade, isto e aquilo, a descolonização, porque a minha ideia primeira, primeiro de tudo, acabar com as guerras, portanto, descolonização. Segundo, democracia. Terceiro, desenvolvimento. E assim fiz. Mas estava a falar a liberdade disto naquilo, sem saber. De repente vejo vir dois tipos assim com armas de coisa. Um militar, vestido militar, com essas coisas assim, né? Que avança para mim. E outro, assim, com um ar que me pareceu o chefe da estação. E eu vejo-os avançar e disse, cá está, vou preso outra vez. E quando eles chegam ao pé de mim, eu assim, agora para eles com muitos, parando de falar, eles batem uma grande pala, o militar, e o coisa, Vossa Excelência, dá licença que o comboio continue, já estamos meia hora atrás. Eu disse, não há dúvida, tudo mudou. É isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Mário Soares foi no mês de novembro de 2013. Mário Soares já tinha 89 anos e aproveitou esta entrevista para ajustar ajustes, é o caso de dizer, com um certo número de pessoas. Mas enfim, obrigado a Manuel Alexandre por me ter acompanhado durante estas duas horas. Espero bem regressar no próximo domingo. E, bom, paro sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.